je ne peux pas laisser d'autres gens s'occuper de la défense de mon fils sans y aller. J'ai bien cru que je ne survivrais pas dans le mois qui a suivi. Quoi. C'est une douleur qui ne s'efface pas. Donc, j'y pense tout le temps.
Bonsoir. Qui a tué le Mozart des échecs? 25 ans après la mort de Gilles Andruet, la justice n'est toujours pas parvenue à répondre à cette question. Pas sûr qu'elle y parvienne un jour. Trois procès n'ont pas réussi à faire la lumière sur le meurtre au mois d'août 1995 du roi français des échiquiers. Un champion surdoué, fils d'un autre champion automobile, celui-là, le rallyman Jean-Claude Andruet. Gilles Andruet dont le seul tort aura été de basculer dans un autre univers, celui du jeu, de l'argent, des tapis verts et des casinos. Où grâce notamment à une martingale mathématique magique, il pensait faire une fortune rapide, monde auquel Gilles Andruet n'était pas préparé. Il va tout simplement y faire de mauvaises rencontres qui abrégeront son existence. Battu à mort, à 37 ans, victime d'un règlement de compte, une exécution. C'est à la demande d'une auditrice que nous revenons ce soir sur le meurtre de Gilles Andruet. Enquête, on va le voir ce soir, qui aura été longue, laborieuse et surtout marquée par bien des surprises, des absences, des silences, des questions jamais posées à ceux qui feront successivement figure d'accusés et seront acquittés, laissant le sentiment persistant chez le père de la victime, Jean-Claude Andruet, que personne n'a véritablement recherché la vérité dans cette affaire. Avec nos invités, parmi lesquels Jean-Claude Andruet, nous allons voir pourquoi l'affaire Andruet reste aujourd'hui encore un mystère et pourquoi les coupables de ce meurtre n'ont pas été identifiés.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, je vous raconte l'affaire Gilles Andruet, génie français des échecs qui depuis plusieurs mois est à la dérive, en proie à des déboires financiers, jusqu'à cette macabre découverte à l'été 1995. Le 22 août 1995, vers 7h45 du matin, une maraîchère de Saulx-les-Chartreux, dans l'Essonne, remonte à pied le chemin qui borde la petite rivière du coin, l'Yvette. Le cours d'eau est presque à sec en cette saison estivale. Après quelques minutes de marche, la maraîchère aperçoit soudain un bras qui émerge de la rivière. C'est un corps qui flotte entre deux eaux, comme posé sur un tapis d'algues. Il semble enveloppé dans une espèce de sac en plastique. L'agricultrice a un mouvement de recul, elle prévient tout de suite les gendarmes. Le corps est sorti de l'eau et posé sur la berge. C'est une falaise de lit qui renferme en fait le cadavre. Les gendarmes notent des taches de sang sur la chemise blanche. L'homme porte une plaie sur le visage. Son cou est violacé et la nuque a été touchée. Il apparaît que la victime a été frappée à plusieurs reprises ou plus certainement tabassée. Il ne s'agit ni d'un accident, ni d'un suicide, mais bel et bien d'un crime. Aucun papier d'identité n'est retrouvé sur le corps de Livette. Pas de signes distinctifs, de tatouages ou de bijoux permettant d'identifier cet homme qui paraît âgé d'une trentaine d'années. Il a simplement dans une poche de son pantalon un billet de 50 francs et quelques pièces de monnaie, dont l'une étrangère. Les légistes de l'Institut médico-légal estiment que la mort est récente. L'homme a sans doute été tué quelques heures seulement avant sa découverte. Le corps a passé très peu de temps à l'air libre et n'a séjourné que brièvement dans l'eau. Constatation qui cadre avec le témoignage de la maraîchère. Elle a dans ce secteur des plantations et elle est formelle. La veille, à 19h, quand elle est passée par ici, le corps n'était pas dans l'eau. Le lieu est isolé et les gendarmes ne disposent pas de témoignage, sauf celui d'un riverain qui a entendu vaguement un bruit de moteur, une voiture, vers 4h10 du matin, le 22 août, l'heure peut-être où le corps a été jeté dans la rivière. Deux jours plus tard, une automobile, une Ford Sierra, est découverte stationnée dans un chemin tranquille à 2 km du lieu du crime. Il y a des traces de sang sur et dans le coffre, dans la boîte aux gants. Les gendarmes mettent la main sur une liasse de papier en désordre. Il y a notamment un permis de conduire ensanglanté. Il est au nom d'un certain Gilles Andruet, né le 30 mars 1958, demeurant Antony dans les Hauts-de-Seine. La photo du permis est datée, mais ce Gilles Andruet ressemble beaucoup à l'homme repêché 48 heures auparavant dans l'Yvette. La carte grise de la Ford n'est pas à son nom. La police judiciaire de Versailles est chargée des investigations. Bonsoir, maître Pascal Garbarini.
Bonsoir.
Vous avez été l'avocat et l'un des premiers avocats du père de Gilles Andruet, Jean-Claude Andruet. On va évidemment parler dans cette heure du crime avec vous, maître Garbarini. Vous allez être notre fil rouge dans cette enquête. On va évidemment parler longuement de Gilles Andruet. Juste en quelques mots, qui est cet homme, Gilles Andruet, 37 ans?
Un génie. Et comme tous les génies, un peu fantasque.
C'est un joueur d'échecs, hein, c'est ça?
C'est un grand maître. d'échecs. Et c'est quelqu'un qui a une vivacité intellectuelle exceptionnelle, qui va faire qu'il va se mettre aux échecs à 25 ans. Mmh. Et il a été grand maître à 27 ans.
Donc il a déjà, c'est un nom qui est connu hein, dans le monde. Il n'est pas connu très publiquement parce que les échecs, c'est pas non plus un...
Non, mais c'est quelqu'un qui a tout de suite été très connu et qui a tout de suite eu une gloire. Parce qu'en général, lorsqu'on est grand maître, c'est que l'on a commencé à jouer aux échecs à l'âge de 4 ans. Et ça. Lui, il s'est mis à découvrir les échecs à l'âge de 25 ans. Oui. Et 2 ans plus tard, il était grand maître.
Donc ce grand maître, c'est bien lui, effectivement, qui est immergé et que cette maraîchère a retrouvé dans ce petit cours d'eau. Livette, Maître Garbarini, que penser de cette scène de crime? Alors il y a quelque chose de frappant, et ça c'est tout de suite vu à l'œil nu par les gendarmes, c'est qu'on s'est manifestement acharné sur la victime.
Oui, on a tout de suite pensé, lorsque l'on a autopsié le corps, et que personnellement j'ai vu le rapport d'autopsie, que c'était un tabassage. Mmh. C'est-à-dire que c'était manifestement des coups qui lui ont été portés, comme si on avait voulu le punir. Une sorte de punition, et j'ai l'impression que c'est une punition qui tourne mal.
C'est ça. On n'a pas voulu forcément le tuer, c'est ça? Mais on est allé trop loin.
C'est ça. Je pense que c'était... On voulait lui mettre une rouste, comme on dit, le mettre en garde. Et je pense qu'à force de le frapper, on ne s'est pas douté qu'on pouvait le tuer, et on l'a tué.
Parce que Gilles Andruet, c'est pas quelqu'un qui est forcément très costaud, très agressif, vindicatif.
Non, pas du tout. On est plutôt sur quelqu'un qui est très bien élevé, qui d'ailleurs avait fait sa terminale au lycée Fesch. Il y a une anecdote à Ajaccio.
Ouais.
Il y a une anecdote qui est assez drôle, mais pour vous montrer l'intelligence, c'est qu'il était en terminale de mathématiques. Et donc le concours, la matière se passait à 8h du matin jusqu'à midi. Et lui est arrivé à 11h. Donc l'examinateur ne voulait pas le laisser rentrer parce qu'il a insisté, parce qu'il était allé acheter des fruits au marché. Et donc il est rentré à 11h, il est sorti à midi moins le quart, et il a eu 20.
C'est ça. Donc c'est un génie, ce que vous disiez au début.
Un génie.
Hein, c'est un génie. Et c'est aussi un doux rêveur, pas, je veux dire, on ne lui connaît pas forcément d'ennemis. On ne va pas tabasser quelqu'un comme ça, qui est plutôt pacifique, Gilles Andruet, c'est pas...
Mais... Pas du tout. C'est quelqu'un qui encore une fois, est la seule relation, puisque vous en avez fait état, la seule relation, c'est avec son père, qui est une relation entre deux champions, en fait. C'est-à-dire que à la fois il sait, mais en même temps il se jauge. Et je me souviens très bien que son père m'avait expliqué que à un moment donné, son père lui dit: mais écoute, Gilles, tu es soi-disant brillant, je ne comprends pas, mais si tu es si brillant que ça, passe une grande école.
Ouais,
et il s'inscrit à une grande école, mais en général, on fait une prépa avant qui peut durer 2 ans, voire 3 ans. Et on passe, lui, il s'inscrit et il fait la prépa 6 mois avant. Et il rentre dans les 10 premiers.
C'est ça. Donc, c'est effectivement quelqu'un d'exceptionnel. On revient, Maître Garbarini, si vous le voulez bien, à l'enquête proprement dite. Alors, j'ai dit que Gilles Andruet a été identifié grâce à son permis de conduire, hein, cette pièce qui est d'ailleurs ensanglantée. C'est dire si les coups ont été nombreux et fournis. Il y a un autre document que j'ai évoqué, c'est la carte grise. Alors là, il y a un autre homme qui apparaît brièvement dans ce dossier. On va trouver ces...
Oui, on va s'apercevoir qu'il y a un lien avec la famille Liani. Et la famille Liani n'est pas une famille qui...
Avec le vendeur de la voiture, c'est ça?
Oui, oui.
Déjà à ce moment-là.
Oui, on va s'apercevoir en fait que... c'est un peu l'histoire, c'est que Gilles Andruet est donc un génie de la mathématique. Très bien. Gilles Andruet, décide de se mettre aux échecs. Et puis, en fait, les échecs, je ne vais pas dire qu'il en fait le tour, mais il se dit, tiens, je vais m'essayer au casino.
Ouais. Mais ça, on va y revenir longuement au casino. Juste sur l'anecdote de cet achat de voiture, cet homme est mis hors de cause, l'homme qui lui a vendu la voiture. Oui. Ce n'est pas sa voiture, mais c'est une voiture que Gilles Andruet a achetée.
A acheté, hein. Il n'a pas changé la carte grise, il va être entendu et tout de suite, il va être innocenté. Donc on est vraiment dans le brouillard, si je puis dire.
Ce témoin, le vendeur de la voiture, va effectivement être mis hors de cause. Gilles Andruet lui a demandé, en achetant la voiture, de ne pas encaisser tout de suite le chèque d'un montant de 7000 francs. D'attendre le 22 août, car à ce moment-là, dit-il, il va avoir une grosse rentrée d'argent. Le 22 août, pile la date à laquelle son corps a été retrouvé. La PJ va alors creuser la personnalité d'une victime qui n'est pas n'importe qui. Les résultats de l'autopsie pratiquée à l'Institut médico-légal de Paris ne laissent guère de place au doute. Gilles Andruet a été frappé sur tout le corps avec ce qui s'apparente à un lourd bâton, très certainement une batte de baseball. Il s'est défendu et il a tenté de se protéger de cette volée de coups, comme l'indiquent les traces de fracture qu'il porte aux deux poignets. Un coup asséné au niveau de la glotte lui a été fatal et a entraîné son asphyxie. Les analyses toxicologiques font apparaître des traces de morphine, de cannabis, d'héroïne et de rohypnol, un puissant somnifère, un hypnotique qui anéantit généralement toute résistance. Les policiers se demandent qui pouvait en vouloir ainsi à Gilles Andruet au point de le tuer d'une façon aussi barbare. On ne connaît a priori aucun ennemi à cet homme qui s'est fait connaître grâce au jeu d'échecs et qui portait déjà un nom célèbre, celui de l'un des meilleurs pilotes automobiles de ces 20 dernières années. Gilles Andruet est effectivement le fils de Jean-Claude Andruet, champion en rallye et circuit, une célébrité de la course automobile. Le fils est moins connu alors du grand public, même si dans le monde des échecs, il fait figure de poids lourd. Il a appris tout seul à jouer à l'adolescence, mathématicien hors pair. Il n'a jamais aimé les études et a vite préféré se consacrer aux échiquiers. C'est un surdoué. À l'âge de 24 ans, il devient maître international. Les portes de tous les grands tournois lui sont ouvertes. À 30 ans, il est sacré champion de France. Il joue avec frénésie et ne semble vivre que pour les échecs. Une vie privée mise entre parenthèses, Gilles Andruet, petite lunette ronde, cerclée de métal et tignasse frisée, apparaît comme un éternel adolescent, volontiers provocateur et irritant pour ses adversaires. En 1984, l'un de ses adversaires, justement, se bat avec lui. 5 ans plus tard, il sort d'un match avec l'arcade sourcilière ouverte. Des incidents depuis longtemps oubliés. Difficile de croire que Andruet a pu être tabassé ainsi par un adversaire en colère. La PJ de Versailles ne s'arrête pas en si bon chemin en enquêtant sur la personnalité de Gilles Andruet. Il apparaît que ces derniers temps, le champion d'échecs était financièrement aux abois. La raison, le démon du jeu dans les casinos. Depuis quelques années, il flambe dans ces établissements moyens pour lui, comme il l'a confié à ses amis aux échecs, de se faire rapidement beaucoup d'argent et de ne plus travailler. Andruet, mathématicien génial, a pour cela récupéré une martingale, celle d'un Américain, Ken Houston, qui l'a perfectionnée, une méthode de comptage des cartes. Il gagne beaucoup et souvent au blackjack, écume les casinos de Deauville, Ostende, Enghien, ceux aussi d'Autriche, du Maroc, de Las Vegas, où il perd gros, d'Istanbul, où il gagne 270 000 francs en 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Le comptage des cartes est prohibé. Andruet est interdit des tables de blackjack. Il va essayer alors de se refaire à la roulette et peu à peu tout perdre, au point parfois de dormir dans sa voiture. Bonsoir Jean-Claude Andruet.
Bonsoir.
Vous êtes le père de Gilles Andruet. Merci beaucoup d'être ce soir au téléphone de l'heure du crime. Je viens d'esquisser le portrait de votre fils, Gilles. En quelques mots, Jean-Claude Andruet, qui était-il, votre fils, le petit génie des échecs?
Vous savez, j'ai rarement été impressionné par l'intelligence des gens que je rencontrais dans la vie. Mais lui était d'une intelligence, notamment au niveau des mathématiques. Il a été champion de France des échecs, mais il avait un don pour les mathématiques extraordinaire. Enfin, je pense qu'il aurait pu faire de la recherche en mathématiques. C'était un extraterrestre à ce niveau-là, quoi. C'était plus que bluffant. Mais même tout jeune, quand il était au lycée Louis-le-Grand, il s'échappait du lycée pour aller jouer aux échecs. Je ne le savais pas, je l'ai découvert après à ce moment-là. Quoi. Il m'avait bluffé à plusieurs reprises. Mais par contre, il avait hérité de moi ma naïveté. Quoi. C'est pour ça qu'à mon avis, il est tombé dans des mains qu'il n'aurait pas dû connaître. Quoi. Voilà.
Maître Garbarini, on vient d'entendre Jean-Claude Andruet, que vous connaissez bien, vous avez été son avocat et vous êtes toujours son ami aujourd'hui. Vous partagez ce sentiment de Jean-Claude Andruet sur le fait que son fils Gilles a soudain plongé dans un océan rempli de requins, celui du jeu?
Tout à fait. Je crois que le revers de la médaille, souvent de personnes qui sont particulièrement intelligente. Jean-Claude parlait d'un extraterrestre. Le revers de la médaille, c'est que souvent, ils sont dans la naïveté. C'est-à-dire qu'ils sont en fait très crédules. Et ils croient que, en fait, les gens qui sont autour d'eux et de lui ne lui veulent que du bien. Ça, c'est un premier point. Et Deuxième élément, souvent, c'est que lorsqu'ils ont comme ça une intelligence supérieure, ils se disent, de toute façon, je vais me refaire, je vais relever le défi. Je sais que c'est pas bien.
Je vais comprendre pourquoi ça va pas marcher.
Voilà. Avec Gilles, on a le sentiment qu'il s'est laissé entraîner, aspirer dans une spirale qu'il ne voulait pas forcément, et puis il s'est dit, je vais y arriver quand même. Mais c'était sans compter sur la méchanceté des gens qui étaient autour de lui.
Bien sûr, dans tous les cas, ce n'est pas du tout son monde, c'est un monde qui lui est étranger, et qui sans doute le dépasse, il ne le sait pas encore. Alors, Pascal Gabarini, il faut revenir sur cette incroyable histoire, qui est dans l'histoire, c'est cette fameuse martingale du casino, parce que ça c'est tout à fait romanesque, hein. Donc c'est une méthode de comptage des cartes. Expliquez-nous ce que trouve Gilles Andruet.
C'est-à-dire que Gilles Andruet, il a quelque chose qu'il va mettre au point immédiatement, c'est que en fait il part des échecs, et il se dit si j'arrive comme cela à calculer sur un échiquier quels vont être les coups des autres, je vais réussir à le faire avec les cartes, et c'est même plus facile. Mmh. Et comme il a une vivacité intellectuelle impressionnante, il va réussir à compter les cartes qui restent dans le sabot. C'est pour ça qu'il choisit le blackjack. Et tout à l'heure, vous parliez de ses premiers gains. Le premier gain qu'il fait, la première fois qu'il se met à une table de blackjack, il a simplement joué, entre guillemets, par rapport à des livres. Il s'installe à une table de blackjack et il va gagner 800 000 francs.
Ce qui est énorme à l'époque.
Ce qui est énorme, de toute façon, c'est presque 800 000 euros. C'est la première fois qu'il joue.
Ouais, c'est ça.
Et il va ensuite enchaîner. Il va enchaîner et à chaque fois, il va gagner. Et comme il est tout le temps dans le défi, et je pense, mais nous y reviendrons certainement plus tard, je pense que c'est une des raisons. À un moment donné, lorsqu'il va s'apercevoir que le blackjack c'est bien, mais que ses gains sont aussi plafonnés et qu'on a repéré qu'il avait une martingale, il se dit, mais je vais gagner également, lancer un défi à la petite boule de la roulette.
À la roulette, oui.
Et c'est ça, Gilles Andruet, de toute façon, il ne se serait pas contenté de gagner de l'argent. Ce n'était pas son but, c'était je vais gagner contre la chance,
c'est
contre
ça.
Le jeu.
Oui, c'est ça, je vais être plus fort que la chance, et plus fort que le jeu, et plus fort que le casino. D'ailleurs, on perd toujours contre le casino.
Absolument.
Il faut le savoir, c'est une règle d'or. Donc, il y a cette martingale. Qu'est-ce qu'il fait de tout cet argent, Gilles Andruet? Est-ce qu'on le sait, l'argent qu'il a gagné?
Il le flambe. C'est-à-dire que pour lui, l'argent n'est rien. Ça ne l'intéresse pas. Il ne joue pas pour gagner de l'argent, il joue pour gagner contre un adversaire. C'est-à-dire qu'en fait, il reproduit l'adversaire des échecs. Sauf que là, c'est un tapis vert ou un tapis avec...
Il refait tapis, si je puis dire.
Il remet toujours
au pot. En tout cas, parce qu'il n'a pas un train de vie extraordinaire.
Et vous parliez, la naïveté de Gilles Andruet, elle est éloquente. Vous savez ce qu'il fait, en fait, pour se faire repérer? C'est qu'à dire, on ne repère pas sa martingale. C'est qu'il joue et il gagne. Il demande à un des croupiers, je veux rencontrer le directeur du casino. Le directeur, comme il insiste et qu'il gagne beaucoup, le directeur de casino le reçoit. Et c'est lui qui lui explique la martingale. Et il lui dit, écoutez, ce que vous avez qu'à faire, c'est que moi je suis votre adjoint, et mettez-moi votre adjoint, et moi je vais repérer les gens qui trichent. Et en fait, il vend sa martingale,
c'est ça, ouais.
Et il se dénonce lui-même. Donc du coup, le directeur dit, eh bien écoutez, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, donc vous preniez vos gains de ce soir, en revanche, à partir de demain, vous êtes interdit.
Un mois et demi avant d'être retrouvé mort, Gilles Andruet a téléphoné à son père avec qui il était en froid depuis 3 ans. Le père et le fils se retrouvent pendant 3 jours. Jean-Claude Andruet essaie de le raisonner. Le champion d'échecs, ruiné par le jeu, lui promet alors de revenir à une vie plus stable, sans évoquer une opération financière qui va le perdre. Après la mort de Gilles Andruet, la PJ de Versailles a découvert dans la boîte à gants de sa voiture un courrier qui retient toute son attention. Il s'agit d'une lettre d'un notaire qui enregistre la vente d'un bien immobilier au bénéfice de Gilles Andruet. Il lui a été remis pour cela un chèque à son nom de 398 000 francs daté du 4 août, soit 18 jours avant qu'il ne soit retrouvé mort. Une vente effectuée dans l'urgence par le champion d'échecs qui, ruiné à cause des casinos, voulait sans doute se remettre à flot. Ce chèque a suivi un bien étrange cheminement. Il a été déposé par une tierce personne dans une banque marocaine du quartier des Champs-Élysées. À la demande de ce client, l'établissement a consenti une faveur. Gilles Andruet pourra retirer son argent, mais pas avant le 22 août. Ce client est un dénommé Franck Liani, 24 ans. Son père, Joseph Liani, a fait la connaissance de Gilles Andruet en fréquentant les casinos. Il s'agit donc de rendre service à ce champion ruiné. L'examen du compte bancaire fait apparaître que le 25 août, 3 jours après la mort du champion d'échecs, tout l'argent du compte a été siphonné. Les prélèvements ont été effectués alors que Gilles Andruet était déjà décédé. Une somme de 50 000 francs a été directement encaissée par Franck Liani. Des chèques ont été rédigés à l'ordre de la banque CETA, la banque du casino d'Anguin. Le 1er septembre, Franck Liani est interpellé. Il explique que Gilles Andruet lui a demandé de retirer l'argent à sa place pour le remettre à une de ses amies, une certaine Hélène. Franck Liani se serait donc exécuté. Des chèques remis au casino en échange de jetons, changés eux-mêmes en argent liquide. Quant aux 50 000 francs qu'il a perçus, il s'agirait d'une espèce de commission. La PJ est plutôt circonspecte sur cet étrange montage. Dans les semaines qui suivent, une femme prénommée Yolanda, gérante d'un restaurant rue Saint-Lazare à Paris, prend contact avec Jean-Claude Andruet, le père de Gilles. Elle lui explique avoir vu Gilles le 21 août au soir, veille de la découverte du corps, au volant d'une voiture avec trois hommes à bord. Il a stoppé devant elle pour lui faire un signe amical. Il avait l'air inquiet, ennuyé. Yolanda accepte d'en parler à la police et ne va cesser dès lors d'être menacée. Face aux enquêteurs, elle décrit un homme assis côté passager qui pourrait ressembler à Joseph Liani. Mais lors d'un tapissage organisé par la PJ, une séance de reconnaissance derrière une vitre, la jeune femme est très inquiète. Elle ne reconnaît aucun des hommes présents derrière la vitre, parmi lesquels Joseph Liani. Jean-Claude Andruet, on vous retrouve ce soir au téléphone de l'heure du crime. Je viens d'évoquer la fameuse somme encaissée par Gilles pour la vente d'un pavillon familial. Familial, c'est important, je le précise. Est-ce que vous étiez au courant, Jean-Claude Andruet, de cette vente qui semble avoir ensuite tout déclenché dans cette affaire ?
J'avais demandé à Gilles de jamais vendre cette maison, puis je pense qu'il l'a fait, il l'a vendue, et ça, j'étais très en colère, tellement déçu qu'il ait fait ça. À un moment donné, il a complètement dérivé, je sais pas, parce que pendant 3 ans, je l'ai pas vu. Et c'est un mois avant sa mort qu'il m'a appelé au secours. Il devait venir, il m'appelait chaque semaine pendant, il m'a appelé 3 fois, il m'avait dit qu'il avait encore des choses à régler à Paris et tout ça, mais moi j'ignorais tout ça, je ne savais pas quelle était sa vie vraiment, et il devait venir revivre avec moi dans le midi où je construisais des voitures électriques pour qu'on travaille ensemble et tout ça, voilà.
Alors ça, c'est le côté secret de Gilles Andruet. Maître Garbarini, vous êtes ce soir dans le studio avec nous de l'heure du crime. On s'arrête sur ces éléments importants dont je viens de faire le récit et cette avancée importante dans l'enquête. Alors dans l'ordre, il y a l'argent, ce fameux chèque qui passe un petit peu de main en main. C'est très compliqué à suivre.
C'est à la fois très compliqué et également très simple, puisqu'on s'est rendu compte que M. Franck Léani s'était fait signer un mandat, un pouvoir, pour que celui-ci puisse se faire transférer les fonds directement sur son compte. Mmh. Donc on s'est aperçu que, justement, dès que les fonds concernant le prix de cession de la maison ont été encaissés sur le compte de M. Gilles Andruet, eh bien ces fonds ont été transférés sur un compte qui appartenait à M. Franck Liani. Mmh.
Mais rien de, à la limite, d'étonnant, puisqu'il rend service à Gilles Andruet, qui, on le rappelle, hein, ne peut pas toucher ce chèque puisqu'il est interdit bancaire.
Absolument. Pour l'instant, on va se contenter des explications de M. Franck Liani. Mmh. Et on va considérer que M. Franck Liani est de bonne foi.
Qui est cette fameuse Hélène, je crois, cette femme qui doit toucher de l'argent puisque Gilles Andruet lui aurait promis de l'argent? Est-ce qu'elle apparaît dans le dossier ou...
C'est une personne que l'on a, qui a été évoquée, mais dont je n'ai pas souvenir qu'elle est...
Parce qu'apparemment, elle n'a pas été identifiée par la suite. Non. Donc, il y a quelques fantômes qui se baladent d'ores et déjà.
Il y a d'ores et déjà des fantômes, et il y a d'ores et déjà des interrogations. Parce que Franck Liani, comme ensuite son père Joseph Liani, ils apparaissent dans ce dossier, mais ils ne font pas partie du cercle connu des proches de M. Gilles Andruet, pas du tout. C'est-à-dire que ce sont des nouveaux intervenants.
C'est ça, c'est des connaissances un peu de la dernière minute.
C'est des connaissances de dernière minute et que manifestement, qui vont être liées, surtout pour Joseph Liani, au jeu, au casino.
Alors on va prendre 2 points avec vous, Maître Garbarini. Le premier point, c'est cette fameuse femme témoin, une copine de Gilles Andruet qui le voit passer en voiture. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe, parce que là aussi c'est extrêmement troublant.
Yolanda a été un témoin très important parce qu'elle va permettre de donner chair à un contexte.
De dire qu'il y a eu séquestration.
Voilà, c'est-à-dire que, en tous les cas, pression inamicale. Et elle va être très forte, c'est que lorsqu'elle va faire sa déclaration, elle va dire il n'y avait aucune raison pour que Gilles Andruet passe par là. Premier point. Deuxièmement, il n'y avait aucune raison pour qu'il klaxonne, qu'il me fasse signe. Et moi, j'ai ensuite compris que ce signe-là était un appel au secours, ou en tous les cas un indice qu'il voulait me donner qu'il était dans cette voiture contre son gré avec les trois personnes qui étaient à ses côtés. C'est elle qui, la première, va mettre les enquêteurs sur une situation criminelle qui commence...
Oui, la piste d'un règlement de compte.
La piste d'un règlement de compte. En tous les cas, qu'il était dans la voiture, contre son gré, et il lui fait signe.
Et pourtant, ce fameux tapissage organisé par la police, je l'ai dit, elle ne reconnaît personne. Et à ce moment-là, il y a le père Liani qui est là, derrière la vitre. Hein.
Oui, elle ne le reconnaît pas. D'un autre côté, elle a été...
menacée.
Son attention a été... énormément attiré par Gilles Andruet lui-même.
Oui, c'est
le premier point. On est dans une voiture, la voiture elle est basse, le conducteur l'appelle, c'est Gilles Andruet, et ensuite ils ne vont pas rester deux minutes. Elle ne va pas pouvoir identifier en disant « Tiens, qui est avec toi ?» Donc c'est quand même assez rapide. Et deuxièmement, et c'est pour cela que, vous savez, quand on menace quelqu'un, la menace, c'est le signe d'un aveu également. Parce que si Yolanda se fait menacer, elle s'est même faite menacer beaucoup plus tard lors du procès.
Oui, et puis elle sera même agressée.
Et elle sera même agressée pendant le procès. Donc ça prouve bien que cette personne-là, par rapport aux personnes qui étaient accusées, elle posait une difficulté. C'est-à-dire qu'il fallait la faire taire, ou en tous les cas l'impressionner, la menacer. C'est ce qui s'est produit.
Alors, encore un petit mot, puis on va y revenir un peu plus tard, mais encore un petit mot. Je crois que les enquêteurs trouvent aussi que la famille Liani a loué une camionnette, c'est ça, pour en transporter un lit.
Absolument.
Alors ça, c'est troublant aussi, ça, parce que ça attire l'attention, parce que le corps était enveloppé dans une alaise.
Le deuxième point, le deuxième élément, enfin un élément que les enquêteurs ont relevé, c'est que pourquoi ce déménagement, pourquoi la location d'une camionnette, pourquoi un lit. Donc ce sont des éléments où on va poser la question justement au consort Liani et ils vont avoir des réponses qui sont approximatives mais qui en tous les cas n'emportent pas la conviction des enquêteurs. Donc ils vont continuer à gratter.
Malgré les doutes des enquêteurs, les Liani, père et fils, ressortent libres après leurs interrogatoires respectifs. Des présomptions peut-être, des coïncidences sûrement, mais pas assez de charges pour que des poursuites puissent être engagées. Le dossier Gilles Andruet semble être parvenu dans une impasse. 5 ans après la mort de Gilles Andruet, un nouveau juge d'instruction reprend le dossier. Il s'aperçoit alors que la fameuse « alaise » qui a servi à envelopper le corps de Gilles Andruet n'a jamais fait l'objet d'une expertise ADN. Le scellé est donc envoyé au laboratoire. Il est prélevé 3 poils identiques. L'ADN de Joseph Liani match avec ses traces. Le magistrat instructeur décide alors de relancer la procédure. Joseph Liani et son fils Franck, qui avaient procuration sur un chèque et un compte de Gilles Andruet, sont tous deux interpellés et placés sous mandat de dépôt. Dans les semaines qui suivent, une confrontation entre les deux suspects tourne au coup de théâtre. Le fils demande que son père soit interrogé sur un certain Loïc Simon, dont le nom n'est jamais apparu jusque-là. Un personnage interlope de la nuit parisienne, homme à tout faire, des clubs et des discothèques. Celui-ci se serait vanté devant plusieurs personnes d'avoir tué un joueur d'échecs à coups de batte de baseball. Seul problème, le dénommé Loïc Simon ne peut pas être interrogé. Il n'est plus de ce monde, il s'est suicidé. Cette révélation conduit les enquêteurs sur la piste d'un dénommé Sacha Roul, le neveu de Joseph Liani. Dans le club que tient sa famille en haut des Champs-Élysées, le Golf de l'Étoile, Sacha a côtoyé Loïc Simon, employé occasionnel de l'établissement. Sacha confirme que celui-ci lui a dit un jour qu'il avait tué un joueur d'échecs. Mais il explique n'avoir tenu aucun compte de ses propos, Loïc Simon ayant depuis longtemps le don de raconter n'importe quoi pour se faire remarquer, une réputation de mythomane un peu paumée. Sacha Roul répond sans difficulté à toutes les questions. Concernant la nuit au cours de laquelle Gilles Andruet a été tué, il dispose d'un solide alibi. Il ne fait également aucun obstacle à un prélèvement ADN. Or, celui-ci va matcher avec l'alaise du crime, exactement comme celui de son oncle Joseph Liani. Alors, pas une surprise en soi, les deux hommes ont le même ADN mitochondrial transmis par la mère. Joseph est la mère de Sacha, son frère et sa sœur. Sacha a donc hérité d'un ADN identique à celui de son oncle. Pas une bonne nouvelle pour les enquêteurs. Impossible de savoir qui des deux hommes a touché ou manipulé la fameuse alaise. Dans le doute, le troisième juge d'instruction souhaite que Sacha Roule soit réentendu. Le 19 décembre 2001, quand les policiers le convoquent, ils apprennent qu'il n'est plus en France. Il se trouverait en Inde, au Rajasthan, pour y ouvrir un hôtel. Les policiers vont ensuite retrouver sa trace à Marrakech, au Maroc, où la famille dispose d'un hôtel où descend toute la jet set. Quoi qu'il en soit, la police et la justice ne peuvent pas entendre cet homme qui est hors de portée. Maître Pascal Garbarini, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de, et vous étiez à l'époque l'avocat de Jean-Claude Andruet dans cette affaire. Alors, il faut expliquer là un petit peu dans le détail cette confrontation qui met le feu aux poudres, parce que là, tout change, le dossier prend une toute autre ampleur. Ça craque un petit peu, je crois, entre le père et le fils qui ne s'entendent pas, qui vont se renvoyer la responsabilité dans cette affaire, c'est ça?
Oui, d'abord, le premier rebond, si je puis dire, c'est le juge d'instruction qui décide enfin de faire analyser l'alaise.
Ce qui est d'ailleurs étonnant, qu'on n'y ait pas pensé avant.
Ce dossier-là, c'est un gâchis judiciaire. Mmh. C'est le jeu des sept erreurs qu'il ne faut pas faire dans une procédure.
Oui.
Il faut l'admettre.
C'est ça. C'est-à-dire que les vérifications, déjà à la base, le dossier est faussé, c'est ça ce que vous voulez dire?
Dès la base, le dossier est faussé parce que les vérifications ne sont pas faites. Mmh. Et les personnes sont entendues, elles sont libérées sans que l'on vérifie leur dire. C'est-à-dire que moi, j'ai 30 ans de barre, je ne l'ai jamais vu ça. Dans une affaire criminelle où il y a un meurtre, où il suffit que la personne dise, ben écoutez, moi ça ne peut pas être moi puisque je n'étais pas là. Ah bon, très bien, ben, au revoir monsieur.
Circuler, il n'y a rien à voir.
Circuler, il n'y a rien à voir. Parce que ça m'est arrivé dans d'autres dossiers, vous vous doutez bien, c'est que lorsque vous dites quelque chose, on va dire, ben écoutez monsieur, vous allez attendre là en garde à vue et puis on va faire la recherche. Parce que si on fait déjà ces recherches-là, je pense notamment à Sacha Roule lorsqu'il dit qu'il a un alibi solide, puisqu'il dit que lorsqu'il rentre en avion, il avait en fait une condamnation pour violence volontaire pour laquelle il avait été condamné par défaut, c'est-à-dire qu'il n'était pas présent déjà. Et donc il dit, eh bien, j'ai été pris à l'aéroport et j'étais au dépôt à Paris. Et donc pendant, je suis resté à peu près 30 heures au dépôt, et donc je ne pouvais pas être à Yvette,
sur les lieux du crime.
Et donc ce n'est pas possible. Très bien. Sauf que on le laisse partir. Et lorsque l'on va vérifier, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, c'est qu'en fait il n'a passé que la nuit, et dès le matin, il a été libéré. Et donc il pouvait très bien, dans l'espace-temps, être par exemple dans la voiture.
Donc tout ça n'a pas été vérifié. Alors l'ADN, effectivement, c'est important, hein, même si c'est compliqué, là, parce qu'effectivement ils ont le même ADN mitochondrial. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'ADN dans la lignée de la mère.
De la mère,
c'est ça,
exactement.
Hein, donc,
exactement. Mais vous voyez que déjà, lorsqu'on prend la photographie là, de l'affaire, on n'est pas sans rien.
C'est que déjà, il y a beaucoup d'éléments.
On a déjà un Franck Liani qui récupère, avec une procuration, on se demande bien pourquoi, une somme où il détourne à son profit la somme d'argent. C'est-à-dire que ça peut être un mobile. Ça, c'est le premier point. On s'aperçoit que la personne qui a attrait vers lui dans cette spirale dont on parlait tout à l'heure, et qui est une spirale qui a été mortifère pour Gilles Andruet, c'est le père, Liani père, c'est le deuxième, Julien je crois que c'est le prénom, peu importe. Et ensuite on s'aperçoit que la personne qui a dit à plusieurs autres amis à lui qu'elle avait porté des coups, et des coups de batte de baseball sur un joueur d'échecs, donc on est quand même sur des éléments qui sont concordants avec l'enquête, un joueur d'échecs, les contusions qui sont établies et constatées par les autopsies, que c'est donc bien une batte de baseball, eh bien c'est l'ami proche, le factotum de Sacha Roule. Donc on n'est pas sans rien.
C'est ça. Donc l'enquête, l'enquête finalement avance assez vite, en tout cas rassemble beaucoup d'éléments. Parlez-nous, Maître Garbarini, de cet énigme, enfin en tout cas de cet homme énigmatique, ce fameux Loïc Simon, qui s'est suicidé, mais qui serait... serait lui le tueur.
Alors, Loïc Simon apparaît, comme l'a dit d'ailleurs Sacha Roule, très justement. C'est vrai que c'est un homme de la nuit, une sorte de mythomane, une sorte de personne qui a besoin d'exister. Vous savez, ce fameux paraître social. Il faut être, entre guillemets, dans tous les coups. Et puis, si on n'est pas dans tous les coups, de toute façon, on est à côté. Et c'est un moyen pour cette personne-là d'exister dans ce petit milieu de la nuit. Sauf que Monsieur Sacha Roule oublie de dire une seule chose. C'est que c'est un proche à lui. Et que
Il dit qu'il le connaît quand même.
Oui, mais Ce qu'il ne va pas dire, c'est que il va dire que de toute façon, il a rompu avec lui et que ça fait des années qu'il ne le voit plus. Or, on va s'apercevoir que, contrairement à ce qu'il dit, c'est que le fameux voyage, lorsqu'il dit qu'il rentre du Maroc, je crois, pour se faire interpeller, et lorsque je dis qu'ensuite il va être placé sous mandat de dépôt à cause d'une condamnation, il dit, eh bien, je n'ai plus revu Loïc Simon. Mmh. Et lorsque va être vérifié par la police qui était dans l'avion, le passager à côté de M. Sacha Roul, c'est Loïc Simon.
C'est Loïc Simon qui est son passager.
Son passager.
Voilà. Donc ça, il ne le révèle pas
aux
enquêteurs. Encore un petit mot, Maître Garbarini, Sacha Roul, là, s'est évaporé à ce moment-là.
Monsieur Sacha Roul va partir et ensuite, il va être retrouvé, si je puis dire, ou en tous les cas, repéré au Maroc.
La cavale de Sacha Roul, qui disposerait de la nationalité marocaine et qui aurait également des appuis haut placés dans le royaume, ne va pas s'arrêter de sitôt. Les Liani, eux, vont être jugés. Au mois de novembre 2003, Joseph et Franck Liani font face aux magistrats et aux jurés de la cour d'assises de l'Essonne. L'avocat de Joseph Liani, maître Lev Forster, va tout faire pour éviter à son client, qui aurait été vu avec Gilles Andruet le soir du crime, ce qu'il dément, une condamnation. Pas de mobile, selon lui, un ADN qui ne signifie rien et pourrait être attribué aussi à l'absent du procès, son neveu Sacha Roul, bref, rien de vraiment concluant. L'accusation, toutefois, charge le père et son fils. Joseph Liani est condamné à 15 ans de prison pour meurtre. Franck écope, lui, de 7 ans de prison, non pas pour avoir participé au crime, mais pour avoir vidé le compte de Gilles Andruet après sa mort. 3 ans plus tard, renversement total de situation. Joseph Liani est acquitté. Quant au grand absent des débats, Sacha Roul, il est condamné à 15 ans de prison en son absence. 4 ans après sa condamnation, Sacha Roul va finalement être arrêté le 19 février 2010 au Maroc. Après quelques mois en prison, il est relâché et comparé libre à son procès le 27 janvier 2014. 3 jours d'audience ne vont pas permettre d'établir la culpabilité de Sacha Roul. L'avocat général dira ne pas avoir adhéré à l'acquittement en appel de Joseph Liani. Il demandera et obtiendra l'acquittement de Sacha Roul. Présent au procès, le père de Gilles Andruet, Jean-Claude Andruet, dira être venu sans volonté de vengeance. « Le mal des autres ne me conforte pas », dira-t-il, « mais je ne sais toujours pas pourquoi et qui a tué mon fils ». Jean-Claude Andruet, je viens de rappeler vos propos que vous avez tenus à la sortie de l'audience. Est-ce qu'après toutes ces années, vous avez tourné la page ou vous estimez toujours que la justice n'est pas allée au bout de cette histoire ?
La justice n'est pas passée. Ça m'a conforté dans l'idée que la justice est manipulée souvent et que je n'y crois plus à la justice. De toute façon, vous savez, je manquais de connaissances juridiques ou judiciaires, enfin, tout ça. Donc, depuis le départ, de toute façon, vous savez, la maman de Sacha Roul tenait un établissement qui était fréquenté par certains hommes politiques dont j'ai pas à juger la vie, mais qui n'est pas mon éthique, hein, en tout cas. Elle avait certainement beaucoup de relations sur le monde politique et tout ça. Et d'ailleurs, ce qui explique que malgré mes interventions au ministère à Nanterre, tous les avis de recherche sautaient régulièrement dès qu'on avait tourné les talons. Vous savez, c'est un scandale, ça. Pendant 15 ans, soi-disant que la justice le recherchait, moi, avec un ami journaliste, en 2 heures, on l'avait retrouvé au Maroc et il revenait en France quand il voulait. Hein. Il n'y avait aucun problème pour lui. Il est revenu je ne sais pas combien de fois. Donc, attendez, de qui se moque-t-on, quoi ?
Jean-Claude Andruet, j'entends bien, vous faites part de l'impuissance de la justice dans ce dossier. Je suppose que vous avez beaucoup de regrets qu'aucune condamnation n'ait été prononcée dans cette affaire.
Vous savez, moi, je ne suis pas acharné après des peines, après tout ça, parce que le temps était passé entre-temps. Il y avait 19 ans qui s'étaient passés. Moi, je n'ai pas envie de faire souffrir des enfants qui n'y sont pour rien. Moi, j'aurais été le premier à demander qu'il n'y ait pas de peine, mais au moins qu'on nous avoue, quoi. Parce que là, en réalité, mon fils, il n'y a personne qui l'a tué, quoi. Voilà, il est mort, mais sous les coups. Mais il y a personne qui l'a tué, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, on se moque de qui, quoi. Là-dedans, c'est vraiment, c'est insupportable, ça. Mais sinon, moi, Vous savez, je ne suis pas acharné à la peine des gens, surtout quand le temps est passé, ça ne sert à rien et ça ne me ramènerait pas mon fils.
Pascal Gabarini, on entend là l'émotion de Jean-Claude Andruet, et qui est encore toujours vive aujourd'hui. Il a vécu, c'est un enfer cette histoire pour lui. Parce que là, finalement, au bout du compte, tout ça pour ça.
Vous entendez la souffrance d'un homme, d'un père. Mm-hmm. 19 ans pour juger une affaire. Et c'est honteux, c'est scandaleux. Mm-hmm. C'est une mascarade de justice. Mm-hmm. Comment on peut expliquer que les choses soient claires? Le père Liani a été acquitté. Sacha Roule a été acquitté. Je n'ai plus rien à dire et je respecte la décision.
Évidemment, et voilà, il faut le répéter, ils sont innocents. Absolument innocentés et innocents aux yeux de la loi.
La question qui se pose, c'est pourquoi avoir attendu 19 ans? Je rappelle, j'ai même envie d'en rire, de la situation pittoresque, folklorique, pour faire rentrer Sacha Roule. Sacha Roule, dans le dossier, lorsqu'il est entendu, il est indiqué qu'il est de nationalité française. Il part au Maroc. On ne demande jamais son extradition. C'est-à-dire qu'on se contente de dire, eh bien, vous savez, il est marocain, et donc, il ne peut pas être extradé, puisque, comme vous le savez, les pays n'extradent pas leurs ressortissants. Il a fallu que ce soit M. Yves Botte, qui était procureur de la République de Paris, qui est décédé, et je lui rends hommage, qui accepte de juger Monsieur Sacha Roule en son absence. Et c'est là où il va être condamné à 15 ans. Sinon, je n'ai pas le moyen pour le faire attraire, parce que je n'ai eu aucun retour. Rien.
C'est ça.
Et c'est grâce, encore une fois, à RTL, et je le dis, et au Monde, que Monsieur Sacha Roule a pu être extradé et s'expliquer devant les juges. Parce que j'ai écrit une lettre à un moment donné, au procureur général, en lui disant « Est-ce que mon client, M. Jean-Claude Andruet, qui est dans la souffrance, ça fait 15 ans qu'il demande à ce que M. Sacha Roule puisse s'expliquer devant ses juges ?» Je ne dis pas qu'il soit condamné, qu'il puisse s'expliquer. Et est-ce que M. Jean-Claude Andruet doit utiliser la méthode Bamberski?
Oui, c'est ça. C'était un père qui allait été rechercher l'assassin de sa fille.
Sa fille, en envoyant des hommes de main. Ce courrier, Le Monde le publie. RTL
en fait état
à l'époque et donne la parole à Jean-Claude Andruet ainsi qu'à moi-même à la matinale. Et 15 jours après, le royaume marocain décide d'extrader M. Sacha Roule. Donc je ne sais pas si vous voyez, on a perdu 10 ans
déjà. Comme quoi la presse peut faire avancer
absolument
à grands pas un dossier.
C'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps décrier la presse lorsqu'elle s'occupe des affaires judiciaires, parce que heureusement qu'elle a été là.
Un dossier judiciaire. Comment vous expliquez, Maître Gabarini? Alors, tout le monde a été acquitté, je le répète, c'est très important. Les personnes en question ont été innocentées dans cette histoire, mais comment vous expliquez ces pesanteurs, ces lenteurs? Pourquoi ça va si lentement dans cette affaire, précisément?
Encore une fois, et merci de l'avoir dit, le père Liani et M. Sacha Roule ont été acquittés, point barre. M. Franck Liani, lui, a été condamné à 7 ans, et d'ailleurs, il n'a jamais restitué les fonds. Jamais. Il a encaissé les fonds, il n'a jamais pu les restituer, on n'a jamais pu le retrouver, malgré détectives privés, etc. C'est du camouflage tout terrain. Mais les lenteurs, déjà, c'est 3 juges d'instruction. 3 juges d'instruction poursuivent cette affaire. Un premier juge d'instruction qui oublie de faire une analyse de la lèse, Ensuite, un deuxième juge d'instruction qui, heureusement, prend le dossier à bras le corps, mais qui, ensuite, doit partir et qui est remplacé par un troisième juge d'instruction qui doit relire le dossier, et donc qui reprend du temps, et ensuite, 3 procès.
Trois procès.
Et pourquoi le père Liani est acquitté en appel? Pourquoi? Parce qu'il n'a cessé de se décharger sur son neveu Sacha Roule pendant le deuxième procès, en disant ce que vous disiez sur l'ADN. Par exemple, en disant « mais c'est pas moi, et si c'était celle de mon neveu ?»
En un mot, Pascal Gabarini, c'est un échec cette histoire? C'est un naufrage judiciaire?
C'est un gâchis judiciaire, et surtout c'est une honte pour Jean-Claude Andruet. Est-ce que Jean-Claude Andruet, est-ce quiconque a le droit de mériter un tel gâchis judiciaire ?
Merci beaucoup Pascal Garbarini et Jean-Claude Andruet d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime. L'affaire Gilles Andruet, quand la vérité s'envole et devient insaisissable. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Et puis un grand merci à vous toutes et tous qui êtes de plus en plus nombreux à partager avec nous ce soir l'heure du crime.